CV.
Sur la scène intermondiale.
RCV avec Pascal CV.
Que tous les coquins soient démasqués, jugés.
Boulevard. 102.
Salut, 10h02, ça part l'heure CV. Hey, on est mardi 7 mai. Soleil magnifique à l'extérieur. Comment ça va, vous, dans votre début de journée? Est-ce que vous vous sentez en forme? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez en paix avec cette journée de travail-là? Je sais qu'il y en a qui n'avaient pas envie. Vous m'avez écrit très tôt ce matin à ce sujet-là. Mais quand il y a du soleil comme ça, je comprends qu'on a peut-être envie d'aller en profiter. En même temps, ça nous fait une belle matinée revigorante et énergisante. Il y a les retours... Très attendu des coureurs du matin. Là, ce matin, moi, je suis allée puis j'en ai vu plusieurs sur la route. On dirait que le beau temps nous permet justement de se lever tôt avec le soleil puis d'aller s'activer avant même le premier café. Ça fait du bien. C'est comme le meilleur réveil matin, je trouve. Il y en a que c'est ça, leur routine matinale aussi. Est-ce que vous entraînez le matin, l'après-midi ou le soir? Est-ce que vous entraînez point? C'est une question que je vous pose en ce moment. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de votre routine? Si oui, c'est quoi? Tiens, on va prendre les présences comme ça. Si c'est non, ben, c'est non. 88-971-1021, qui est là? Sinon, sur Twitch, ben, je vois plein de monde déjà. Twitch, c'est quoi? Des caméras en studio. Donc, vous pouvez suivre l'émission avec les collaborateurs directement dans votre écran d'ordi si vous êtes au travail ou votre écran de télé, ça fonctionne aussi. C'est une application finalement. Twitch.tv, tapez dans la barre de recherche BLVD par en bas FM. On commence l'émission. Mon nom est Pascal. On passe une heure ensemble avant... le midi avec Yannick Marceau et Thomas Gauthier. Puis aujourd'hui, ben, j'ai un beau tirage à faire. J'ai un beau concours pour aller voir un show et ça me fait éclater de rire l'artiste qu'on s'en va voir au Centre Vidéotron prochainement. C'est tellement positif. Ça met tellement dans un univers estival. Ça va être le fun. Je suis vraiment contente de vous donner des billets pour cet artiste-là un peu plus tard à l'émission. Restez présents. Ça va valoir la peine. Honnêtement, ça va aller chercher plein de générations. C'est ça qui est le fun. OK, le proverbe d'aujourd'hui, vouloir, c'est pouvoir. Bon, on le connaissait, je le trouve facile, mais je le trouve parlant. Alors, j'ai décidé d'en avoir deux aujourd'hui parce que vouloir, c'est pouvoir, on le connaît. Puis, je pense que ça fait partie un peu de ce qu'on sait, mais j'en ajoute un aussi. Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Puis je trouve que c'est vrai, ça aussi. Quand on se contient, quand on n'est pas nous-mêmes, quand on a envie de, je sais pas, entrer dans certains cadres de la société, de ne pas faire trop de bruit, de pas rire trop fort ou encore de ne pas exploiter notre personnalité à 100%, ben il n'y a pas nécessairement de plaisir. Fait qu'il faut être soi. Il faut se permettre aussi d'avoir un entourage qui nous permet d'être soi aussi. Puis de faire avec les départs si jamais ça ne fait pas. Alors, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Retenez ça dans votre petite boîte, là, dans votre sac à dos pour aujourd'hui. En ce début d'émission, je peux vous dire qu'on va recevoir un peu plus tard Patrick Mathieu parce qu'en ce moment, on se prépare aux Jeux olympiques du côté de Paris. Puis, il y a un test de sécurité qui va être fait pendant le Festival de Cannes. Grosse compagnie de sécurité informatique qui va utiliser l'intelligence artificielle partout dans le Festival de Cannes pour plusieurs raisons, puis pour aller repérer beaucoup de choses. Vous savez, ça accueille le Festival de Cannes, les artistes les plus connus du monde, en fait. C'est un party en soi. C'est, oui, des prix-récompenses pour les films, entre autres, mais... Au-delà de ça, c'est un fort rassemblement déjà rodé, déjà bien organisé et c'est un peu le préambule aux prochains Jeux olympiques de Paris où on va accueillir beaucoup de gens, que c'est pas à chaque année, qu'on n'a pas le même genre de préparation, mais côté sécurité, on teste quelque chose au Festival de Cannes. Soyez là un peu plus tard à l'émission. On va vous apprendre bien des choses et peut-être que ça va justement se transposer dans nos événements à moyen long terme ici au Québec. Le Festival d'été de Québec, je le vois très, très bien utiliser ce genre de technologie-là, entre autres quand on vient qu'à quitter les plaines tout le monde en même temps. Je vous en dis pas plus, mais je me souviens d'avoir beaucoup de textos pendant qu'on est dans la période du Festival d'été de Québec, de gens qui disent « Hey, quand on vient pour quitter les plaines, on dirait qu'on a peur des fois tellement que ça peut être long, puis que quelqu'un qui était mal intentionné aurait pu avoir un plan un peu machiavélique. » Là. Mais restez là à l'écoute, vous allez voir que ça s'en vient côté sécurité. Des nouvelles technologies qui vont faire un changement dans ce genre de rassemblement-là. Sarah Dufour est avec nous. Allez vous couler un bon café, qu'il soit frais ou qu'il soit chaud, peu importe. C'est selon vos goûts aujourd'hui. Sarah Dufour, qui est en Chine en ce moment, qui donne une série spectacle. Elle fait des festivals devant des Chinois pour faire valoir sa musique, faire valoir le Québec aussi. On va y parler à son retour, on va savoir comment ça a été. Mais en ce moment, on l'écoute avec « Je m'en vais dans le bois ». Merci d'avoir choisi leur CV à Boulevard 102.1. Plusieurs nouvelles importantes. Ouais, plusieurs nouvelles importantes dans l'actualité aujourd'hui. Il y en a qui sont non pas surprenantes, on pouvait s'en attendre, mais on souhaitait que ça arrive aussi. Je vous reviens avec Éric Kerr. Ouais, Éric Kerr, vous vous souvenez. Notre ministre de la CAQ. Il y a eu un incendie suspect derrière le théâtre Petit Champlain dans les dernières heures. Ça s'est déclaré ce matin en matinée, bien sûr, dans le secteur du Petit Champlain. Et les pompiers ont été appelés pour intervenir pour un feu qui avait pris naissance à l'arrière du théâtre autour de 6h45. Il y a eu au moins 35 pompiers qui se sont rendus sur les lieux dès le départ pour combattre cet incendie-là parce que, justement, c'est un petit quartier exigu. On a prévu des effectifs d'avance pour s'assurer que tout se passe bien. Les porte-paroles sur place ont répondu aux questions des journalistes, mais on sait qu'on a travaillé rapidement pour venir à bout des flammes, pour pas qu'il y ait de propagation à l'intérieur du bâtiment ou autour des édifices voisins. Il y a juste la paroi extérieure qui a été endommagée, puis ça a été rapidement maîtrisé. Environ une heure plus tard, on avait terminé. Ce qu'on sait, c'est qu'on a passé au peigne fin là, toute la zone pour essayer de voir c'est quoi l'origine du feu. Et selon les premières observations, c'est un feu qui aurait débuté dans une poubelle à l'arrière du bâtiment. C'est pas la première fois qu'on entend ça. Souvent, ça a été allumé par quelqu'un quand c'est dans une poubelle. On aura plus de détails au courant des prochains jours, mais j'espère qu'on recommence pas avec des histoires d'incendiaires, là. Qui font des frasques. Là. Limoilou, il y avait énormément goûté dans les dernières années. Là, Théâtre Petit Champlain, ça ne tente pas non plus de voir qu'il y en a un dans ce secteur-là. Éric Kerr. Pendant des années, hein, il s'est battu pour qu'on ait une sécurité informatique dans l'actualité, qu'on en parle à l'Assemblée nationale. Il s'est battu pour être ministre, justement, de la sécurité informatique. Alors, qu'on ait vraiment un département au sein du gouvernement. Puis ça, c'est correct, honnêtement. Ça, j'applaudis parce qu'on a manqué le train. Ça aurait dû être fait plusieurs années auparavant. Mais là, il se retrouve dans ce ministère-là. Et c'est un peu difficile avec les frasques de la SAAC aussi. On se rend compte qu'il y a beaucoup de travail à faire et qu'on n'a peut-être pas les meilleurs à l'interne et ou la meilleure façon d'administrer le tout. On avait peur avec les virages numériques qui s'en venaient, entre autres en santé, que ça se déroule comme la SAAQ. On avait peur qu'on aille de l'avant avec ça. On avait peur qu'on aille de l'avant aussi avec le vote par Internet, hein, le vote pour les prochaines élections par Internet. Puis Patrick Mathieu, qu'on va recevoir un peu plus tard à l'émission, il en parle souvent de ça. On n'est pas prêt. On ne prend pas les bonnes décisions. On n'a pas la bonne façon de faire. Si on commence à se mettre les deux mains là-dedans, malgré le fait qu'on doive le faire depuis des années qu'on est en retard, ça va finalement être pire. Et là, ce qu'on apprend dans le Journal de Québec aujourd'hui, c'est qu'Éric Kerr a remisé l'important projet d'application mobile pour l'identité numérique. Ça veut dire quoi, ça? Bon, on a du plomb dans l'aile, c'est sûr. Et on promettait aux Québécois une application. Rappelez-vous, là, cette application-là devait vous donner accès à tous les services gouvernementaux sur votre téléphone dès 2025. Là, ça a été mis sur la glace. Là. On se rend bien compte que ça ne sera pas aussi facile que ça. Et ce n'est pas demain, la veille, que vous allez avoir votre permis de conduire, votre carte d'assurance maladie sur une application mobile du gouvernement du Québec. Là. Le projet qu'on appelait Portefeuille Québec, c'était évalué à 105 millions de dollars. Puis ça incluait les coûts d'exploitation, de promotion, qui est attendue pour 2025. Ça, c'est dans un mémoire là, du Service québécois d'identité numérique, ces chiffres-là et ces informations-là. Puis là, on dit qu'il n'y a pas de main-d'œuvre pour le déploiement complet. On est dans une pénurie de main-d'œuvre. C'est ce qu'a dit le ministre de la cybersécurité et du numérique, Éric Kerr, quand il a présenté l'étude des crédits budgétaires là, en avril dernier. Mais au-delà de ça, au-delà de la main-d'œuvre, c'est peut-être pas la bonne non plus. Tous les derniers projets numériques qui ont explosé en coûts, comme si on avait mal évalué combien ça devait nous coûter et que certaines entreprises en ont profité aussi. Parfois, on est capable de refaire le panier bleu dans le privé pour beaucoup moins que ça. pas que c'est le public qui le fait, mais les compagnies qu'on a engagées peut-être savaient que le gouvernement n'était pas au courant des vrais coûts, puis comment ça fonctionne justement, ce genre d'application-là, de création d'application, puis que ça ne vaut pas le prix qu'on a payé en tant que Québécois à travers les dernières années. Mais déjà en 2022, on admettait là, qu'on ne détenait pas l'expertise à l'interne, que ça, c'est une bonne chose là, quand on est conscient de nos faiblesses, pour créer l'infrastructure informatique qui Ricard voulait construire. Et on allait dépasser les 20 millions de dollars en sous-traitant pour la concevoir. Donc, toujours là, en 2022, le bureau parlementaire rapportait qu'il y avait un manque de transparence du ministre Éric Kerr qui bloquait le projet. On n'est pas trop capable de garantir qu'on a cette commission d'accès à l'information pour avoir des informations majoritaire sur le projet ou en plus grand nombre. Ce qu'on sait, c'est qu'on veut protéger les données personnelles, puis peut-être qu'on n'est pas assez ferré pour le faire. Mais rappelez-vous, hein, Éric Kerr s'était engagé il y a plusieurs années. Là, ça commence à aller vite. Moi, je me suis mise en tête la pandémie dernièrement, puis dans ma tête, ça faisait 2 ans. Maintenant, on est toujours bien en 2024, commencé en 2019. Puis c'est à ce moment-là qu'Éric Kerr s'est engagé à livrer une identité numérique aux citoyens. En 2019, puis on vantait l'utilisation de cette identité-là numérique sur les téléphones mobiles. On voulait avoir accès à des services sécuritaires à portée de main, comme par exemple vos transactions bancaires. Une chance, ça n'a pas été fait finalement. Imaginez comment ça... En tout cas, on peut bien dire qu'on essaie d'être avant-gardiste ou du moins de juste s'adonner à ce qui est fait maintenant en 2024, mais on est loin de ça. Parfois, c'est inquiétant. C'est encourageant de savoir qu'on ne va pas de l'avant avec ce projet-là pour l'instant, sachant qu'on n'est pas ferré, mais c'est un petit peu inquiétant aussi de voir qu'on n'est pas capable d'avoir ce type de projet-là au Québec. Parlant d'argent, parce que je vous parlais des enveloppes budgétaires qui étaient mises de côté pour ce projet d'identité numérique, bien, il y a beaucoup de faillites d'entreprises au Québec. Forte hausse des faillites. Les experts l'avaient prévu suite à la pandémie. Ça a pris un petit peu plus de temps que prévu. Mais là, on est 2 fois plus en faillite d'entreprises au Québec. Puis même, on se compare avec l'Ontario, donc au Québec qu'en Ontario. Dans les 12 derniers mois, donc durant la dernière année, soit avril 2023 à mars 2024, il y a 3305 entreprises québécoises qui ont déposé un dossier d'insolvabilité en vertu de la loi sur la faillite et l'insolvabilité. Ça, c'est 2696 faillites et 609 propositions de règlement avec les créanciers. Donc, c'est assez alarmant au Québec, là, le nombre d'entreprises québécoises qui sont insolvables. Ça a bondi de 57 % en l'espace d'une année et de 132 depuis 3 ans. Êtes-vous concerné? Avez-vous une entreprise? Avez-vous des amis qui sont en entreprise, qui en arrachent depuis un bout? Puis c'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû au fait que les gens viennent moins consommer parce qu'ils ont peut-être un petit peu moins d'argent? L'inflation, ça apparaît pour tout le monde? Ou encore, on a eu une mauvaise gestion des dernières années? Ou encore, le pouvoir d'achat, bien, c'est plus le même? Est-ce que les habitudes de vos clients aussi ont changé? Si vous aviez, par exemple, je donne un exemple qui n'est pas concret, mais une boucherie, puis là, vous voyez tout le tournant qui est plus végétarien, végétalien, vous sentez que vous payez parce que, justement, cette nouvelle tendance est assez forte. Dites-moi ça au 418-971-1021, mais c'est très important ce qui est en train de se passer au Québec. C'est même un record canadien en dossier d'insolvabilité d'entreprise qui a été enregistré là, lors du premier trimestre de 2024. Si on compare à celui de 2023, augmentation de 87 %. C'est la plus haute hausse enregistrée en 35 ans. Dans toutes les statistiques, c'est fascinant de voir ça. Et pour le moins triste, pour le moins épeurant, il y en avait-tu trop de restos en même temps? T'sais, en pandémie, on se dit, c'est peut-être ça, là, ça va faire une sélection à travers les restaurants qui existent. C'est-tu majoritairement des restaurants? C'est-tu majoritairement des commerces au détail? Moi, je voudrais le savoir. Là. On a quelques petits facteurs qui sont peut-être attribuables à cette détérioration-là de la solvabilité des entreprises canadiennes. On parle d'une augmentation considérable de la détresse chez les entreprises canadiennes, le fardeau de la crise sanitaire qui se fait encore sentir, le coût élevé des intrants, de la main-d'œuvre, le ralentissement des dépenses de consommation, l'augmentation des coûts d'emprunt, le remboursement des prêts, des comptes d'urgence pour les entreprises, ça s'est apparu beaucoup, qui a entraîné un fardeau financier supplémentaire. Il y en a plein qui n'ont pas été capables de le payer finalement. Puis les mensualités aussi de remboursement des dettes, des intérêts qui ont augmenté. Puis... on donne des conseils là, parmi les experts qui ont vu cette situation-là assez importante là, dans l'actualité aujourd'hui. On dit que normalement, ce sont les petites, les moyennes entreprises qui en arrachent le plus dans ces périodes économiques difficiles-là. Puis peut-être que pour ceux qui ont de la difficulté, ben, faut revoir les options de restructuration, les arrangements commerciaux qui sont susceptibles de sauver votre entreprise, finalement, d'aller passer au peigne fin de... du début à la fin, tout ce qui sort et qui entre dans votre entreprise, puis même peut-être revoir la façon de faire les affaires, même si c'est challengeant, même si c'est difficile, puis que ça se peut que votre entreprise ne soit plus jamais la même, bien, peut-être qu'elle n'aura juste pas fermé aussi. L'immobilier dans la région de Québec, encore une bonne nouvelle, c'est difficile. Là, avril, le mois qu'on vient de passer, flirte avec les sommets qui ont été atteints durant la pandémie. On dit qu'il y a une hausse de 18 % des transactions par rapport à avril 2023. Chose certaine, ça peut être négatif, ça peut être positif aussi. Le marché immobilier de Québec, c'est en ébullition. Donc, le nombre de ventes immobilières enregistrées en avril, ici dans la région, là, c'est proche du sommet de la période de 2021. On est en plein cœur de la pandémie. On dit que les ventes sur le territoire sont très, très, très forte. Le marché immobilier était caractérisé il y a quelques années par une forte demande, puis il y avait un faible inventaire. Mais là, les inscriptions en vigueur étaient en baisse de près de 50 % par rapport à la même période l'année précédente. Par contre, pour avril dernier, c'est une hausse des transactions de 18 %. Donc, quand même, là, Centris et autres sites web et courtiers immobiliers sont capables de faire de bonnes affaires. Les faits saillants, c'est que si on regarde en avril 2024, ce qui a été le plus vendu, c'est les unifamiliales, 629 ventes, c'est 18 % comme je vous disais. Les copropriétés, on est à 272 transactions. Les plex, 75, puis on est capable de ventiler comme ça. Mais les gens veulent acheter. Peut-être qu'ils ont mis de l'argent de côté pendant les dernières années, qu'ils attendaient que les taux baissent. C'est pas nécessairement ce qui se passe en ce moment. Donc, ils décident d'aller de l'avant avec leur projet malgré tout. Il y a un ancien enseignant d'une école francophone de Calgary qui est accusé d'agression sexuelle. Puis là, vous dites, mon Dieu, mais c'est loin. Pourquoi tu nous en parles? Bien, parce que c'est un petit peu plus près de nous qu'on peut penser des fois. Mais chose certaine, cet enseignant-là a fait des victimes de 2000 à 2003. Puis on est toujours à la recherche de peut-être d'autres victimes dans le dossier. Un homme qui était dans la trentaine à ce moment-là. Et si vous souhaitez peut-être aller voir l'article, il faut savoir que l'enseignant a fait le tour là, de plusieurs écoles. Alors, voilà pourquoi on en parle. Il s'appelle Mario Arsenault. Ça vous dit quelque chose? Contactez les policiers. 3300 vélos, 330 stations à vélo déployées d'ici 2028 à Québec. Est-ce que vous les utilisez? Sachez qu'on est en expansion de ce projet-là. On est content à la Ville de Québec. Un plan de déploiement pour les 4 prochaines années qui est prévu. On va ajouter plein de vélos à assistance électrique par année, au moins 500 par année d'ici 2028 pour atteindre les 3300 dont je vous parlais. Donc, c'est un plan à long terme et c'est loin d'être terminé pour cet essai-là qui, au départ, était un projet pilote qui est finalement adopté par des utilisateurs de Québec et aussi la Ville. Et je termine avec deux dossiers qui sont intéressants. Un dans le sport. Je ne sais pas si vous voulez aller voir Lionel Messi. Hein, il va être à Montréal, Lionel Messi. Mais c'est cher. C'est vraiment cher. Les prix des billets avec l'inflation, les taux d'intérêt, ça a freiné la demande pour le match du 11 mai prochain. On est le 7, là. Le 11 mai prochain, l'équipe de Montréal de soccer va affronter l'Inter Miami. Puis il reste beaucoup de place. Lionel Messi n'a pas réussi à attirer le nombre de spectateurs qu'on croyait. On pensait que ça allait être complet, puis que finalement, ça allait être guichet fermé. Mais ce n'est pas le cas. On va peut-être voir les billets diminuer au courant des prochains jours, mais il reste 1350 billets. Ça, c'était le nombre d'hier, là, après-midi, pour assister au match du CF Montréal contre la formation floridienne qui attirait plus ou moins les gens dans les dernières années, mais maintenant, avec Lionel Messi... Et aussi David Beckham derrière est pas mal populaire. On a vendu quelques abonnements cette année. C'était des abonnements qui ont valu plus cher. Mais quand même, pour ce match du 11 mai prochain, c'est pas nécessairement facile de mettre la main sur le billet. Pas parce qu'il n'est pas disponible, mais parce qu'il coûte au moins 300 $ là. Ça dépend de la place où vous voulez être. Mais le coût des billets, là, c'est quand même 316 $ pour ceux qui ont été vus sur des sites de vente. Est-ce qu'il y en a qui y vont? Bonne question. Mais ça, là, Lionel Messi, il faut le voir jouer un jour. Si vous aimez le soccer, ça vaut la peine, c'est sûr, mais peut-être pas pour 316$. Et je termine avec les États-Unis, bien sûr, faut en parler. Stormy Daniels, qui devrait témoigner aujourd'hui au procès de Donald Trump. Alors, Stormy Daniels, vous le savez, c'est qui? C'est l'ancienne star de film X. Elle est attendue aujourd'hui au tribunal de New York. Elle devrait livrer son témoignage face à Donald Trump pour le procès pénal de cet ancien président des États-Unis. Elle est l'une des principales figures, vous le savez. Plusieurs médias américains sont sur place. Son vrai nom, Stephanie Clifford. Je vous rappelle qu'elle avait reçu 130 000 $ à la fin d'une campagne présidentielle en 2016 parce qu'on ne voulait pas qu'elle parle sur une relation sexuelle qu'elle affirmait avoir eue avec Donald Trump en 2006. Et il y a un paiement qui a été fait, le 130 000 $ pour acheter son silence. Ce n'était pas ça le problème. C'est le fait que, du côté de Donald Trump et de son équipe, on a dissimulé cette dépense-là dans les comptes. Et c'est là où le bas blesse, c'est là pourquoi Donald Trump est en cour. Et elle devrait prêter serment, témoigner probablement pendant plusieurs heures où beaucoup de journalistes seront présents. Donald Trump l'accuse de mentir dans tout ça. Donc, il sera assis en face d'elle. C'est plate qu'on n'ait pas de caméra au sein de cette salle de cour là, à New York. Ça dépend des États, puis à New York, ben, c'est pas possible. Mais Stormy Daniels, Donald Trump, face à face, à quelques mètres, pendant le témoignage de Stormy Daniels. Donald Trump, il a déjà de la misère à se contenir depuis les derniers jours. Il n'arrête pas de faire des frasques au risque d'être emprisonné parce que le juge n'arrête pas de le rabrouer en disant « Monsieur Trump, il va falloir arrêter d'intimider le jury. » Je ne sais pas comment ça va se passer face à Stormy Daniels, mais il est arrivé, Donald Trump. Il est en salle d'audience depuis 9h30. Il est là chaque jour à 9h30. Je vous rappelle, l'argent qui avait été versé, ça a été fait par l'ancien avocat du milliardaire républicain. Donc, c'était Michael Cohen qui avait fait ça via une société écran, puis avait été remboursé en 2017 par, on appelle ça la holding de Donald Trump, hein, la Trump Organization, pour des dépenses enregistrées en frais juridiques, mais c'était pas ça, finalement, qu'on est en train de se rendre compte. Alors, voilà pourquoi on est en cours. Courte pause du côté de l'RCV, on revient dans un instant. Hey, j'ai même envie, non, j'ai envie qu'on ait écouté du Bob Bissonnette avant. Ça vous tente-tu? OK, Bob Bissonnette, mettre du tape sur ma palette. On a fait un beau tour de l'actualité. Ouais, on va s'offrir un peu de Bob Bissonnette.
Pascal, c'est vrai.
Eh bien, c'est l'heure. Je vous ai parlé un peu plus tôt d'un concours. Ouais, j'ai un band surprise. Je dis ça parce que je ne m'attendais pas à faire gagner des billets pour ce band-là, mais je suis vraiment contente. Je vais vous le mettre en bruit de fond, tiens. Peut-être que vous allez deviner avant même que je dise c'est qui. C'est un band soleil, c'est un band qui rend de bonne humeur et ils seront intronisés au temple de la renommée du rock and roll, The Doobie Brothers. On va retrouver Tom Johnson, Michael McDonald, Pat Simons et John McPhee au Centre Vidéotron en octobre prochain, le 15 octobre. Et j'ai une paire de billets pour vous pour cette tournée-là. On dirait que je nous vois déjà au Centre Vidéotron avec un petit verre à la main en train de triper, le grand sourire aux lèvres. Les billets sont en vente vendredi 10h sur Gestev et Ticketmaster. Mais vous savez qu'on a toujours des exclusivités parce que Live Nation et Gestev sont partenaires. Et les Doobie Brothers au Centre Vidéotron seront accessibles maintenant à portée de vos doigts sur le clavier. Je veux savoir, en fait... pourquoi vous avez besoin d'une dose de soleil dans votre vie? Okay? 88-971-102. Pourquoi vous avez besoin des Doobie Brothers en octobre prochain pour éliminer un peu votre quotidien? 88-971-102. J'ai pas besoin des histoires dramatiques comme à la voix si vous en avez, mon Dieu, entièrement pleine d'empathie, puis ça compte, OK? Mais si tu dis que t'as rien vécu de particulier, il y a pas de problème. Des fois, c'est juste parce que t'as envie de faire profiter quelqu'un. 88-971-1021 pour une paire de billets pour les Doobie Brothers au Centre Vidéotron. Ouais, ils seront à Québec. Oh, 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 Bonne chance à tous, puis peut-être qu'il y en aura d'autres à gagner au courant de la journée, des billets pour les Doobie Brothers. Je dis ça, je dis rien. Peut-être que j'ai vu d'autres paires de billets pendant la journée même. Peut-être, peut-être. En musique, c'est Dépotoir de Gab Bouchard sur les ordres de... les ondes de Boulevard 102. Merci d'être bien présent. Dehors, eh bien, c'est une magnifique température. On a 12 degrés et du soleil pour pas mal toute la journée. Ça va même monter jusqu'à 19. Sortez, profitez-en. Une petite pause dehors, un lunch dehors, une marche dehors, peu importe. Allez prendre l'air.
Faut jamais dire jamais.
L'heure CV.
Quand je réfléchis, j'ai 6 cerveaux, en fait.
L'heure CV avec Pascal CV.
Boulevard 102.
Vous avez été plusieurs, en fait, à participer pour les Doobie Brothers. Je suis vraiment surprise de voir à quel point vous avez du plaisir à découvrir de la musique pour ceux qui ne connaissaient pas ce band-là, ou encore tout simplement d'aller les voir en spectacle pour la première fois ou pour multiples fois. Il y a des gens qui m'écrivaient que c'est pas mal un des bands que leurs parents leur ont transmis dans les goûts musicaux. Là. C'est vrai que nos parents écoutaient tellement de choses. Il y avait une ère musicale dans ces générations-là qui était fascinante. J'allais dire là, un mot, en fait, puis il n'était pas assez fort. Il y avait une diversité complète, c'est ce que j'allais dire, de sons. Puis je trouvais ça le fun dans ces années-là. Il était extrêmement choyé par toute l'ambiance musicale, les spectacles qui ne coûtaient pas cher et autres. Mais c'est sûr que quand vous écoutez Boulevard 102, ça ne coûte pas cher parce qu'on a des paires de billets à vous faire gagner au courant des prochaines heures pour aller voir les Doobie Brothers. Et félicitations à Alexandra Grenier qui va aller voir ce show-là avec son père parce qu'elle dit justement que c'est son père qui lui a transmis... Le bonheur de la musique, peu importe les bandes et les styles musicaux, puis c'en est un qu'ils ont écouté beaucoup ensemble, les Doobie Brothers. Oui, Centre Vidéotron qui va les accueillir en octobre prochain. Je voulais, avant d'aller parler à Patrick Mathieu, notre expert en sécurité informatique, glisser un mot sur un article de la presse qui est sorti aujourd'hui et qui dit qu'il y a au moins 10 femmes qui sont étranglées par semaine pour la violence conjugale à Montréal. On n'a pas de statistiques pour Québec, mais ça me fascinait de voir que 10 femmes par semaine sont étranglés dans un contexte de violence conjugale. Et l'an dernier, on dit que c'est 553 dossiers liés à cette réalité qui ont été autorisés par le directeur des poursuites criminelles et pénales. Ça veut dire que les dossiers ont été analysés, on a les preuves et on a en masse de papiers et de déclarations pour aller plus loin avec le directeur des poursuites criminelles et des criminels et pénales. Et ça me donne quand même quelques frissons dans le dos. Puis à l'extérieur, à l'international, il y a les services de sécurité ukrainiens qui ont annoncé aujourd'hui qu'ils ont arrêté 2 officiers de sécurité soupçonnés d'avoir préparé l'assassinat du président Volodymyr Zelensky et de d'autres responsables du pays sous ordre de Moscou. Et ça commence à encore plus faire rage dans ce conflit-là. On a un petit peu moins parlé parce qu'il y avait tout ce qui se passait avec Israël et la Palestine, mais c'est encore vraiment d'actualité. Puis au contraire, Moscou est en train de rassembler plein d'armements différents pour essayer d'en terminer avec cette guerre-là. Donc, ça devient de plus en plus sanglant. Dans les prochaines semaines, c'est loin d'être positif et pacifique ce qui nous attend dans tout ce qui est contexte géopolitique. On va aller parler, par contre, de sécurité informatique. Ça fait partie de nos vies. Avec notre invité, comme à chaque fois qu'on le reçoit, on le présente comme étant l'expert en sécurité informatique. Il travaille là-dedans depuis plusieurs années. Il est au bout du fil. C'est Patrick Mathieu. Salut, Patrick.
Hey, bon matin.
Merci de te joindre à nous pour la finalité de l'émission. Je t'ai envoyé un texte, puis c'est sûr que tu étais déjà au courant de ce genre de choses-là. Puis j'avais envie d'en parler avec toi parce qu'on peut les ramener à nous. Hein, pendant la période du Festival d'été de Québec, nombreux sont les gens qui se disent, ben, en sortant de gros événements sociaux où il y a une grosse foule, des fois ça prend un petit peu de temps, j'ai toujours peur que quelqu'un qui ait une mauvaise idée, en fait, d'utiliser quoi que ce soit pour être malfaiteur puis blesser des gens. Puis là, on voit avec l'arrivée de l'intelligence artificielle dans plusieurs services de sécurité, des petits ajouts qui sont testés ou encore qui font une différence. Et là, c'est le cas. Au service de la sécurité du Festival de Cannes, on va utiliser l'intelligence artificielle, des codes QR aussi, des boutons d'appel pour ce 77e festival-là. En fait, ça va être empreint de technologie avec des dispositifs expérimentaux et... C'est bien que ce soit au Festival de Cannes, un festival qui est rodé, qui arrive régulièrement, qu'on sait comment gérer la sécurité auprès justement de stars internationales qui sont là. Puis des foules quand même de plusieurs personnes, juste des journalistes, c'est 4500 là. Mais on va faire en fait des expérimentations avec l'intelligence artificielle pour aussi être prêt à l'approche des Jeux Jeux olympiques de Paris. C'est quoi cette nouveauté-là d'intelligence artificielle en sécurité, Patrick?
Alors, je veux dire, il y en a des tonnes. Il y a beaucoup de reconnaissance faciale, détecter les comportements, détecter les mouvements, etc. Je dis reconnaissance faciale, c'est pas juste faciale, c'est vraiment le corps au complet. Tu sais, dans les films, on voit beaucoup une caméra qui détecte la personne, on sait c'est qui, blablabla. Donc, la première chose qu'on pense, c'est tu sais, si on veut faire quelque chose de méchant, ben, on va se mettre un masque et on ne se fera pas détecter. Mais ça ne fonctionne plus parce qu'il analyse au complet le mouvement de tout ton corps.
Admettons que tu te mettais une cagoule là, pour faire ton vol, ben là, ça risque de tomber au courant des prochaines années.
Oui. C'est déjà en place un peu partout. Un peu partout, peut-être pas au Québec, là, mais dans beaucoup de pays. Où ce que ton mouvement, évidemment, si à un moment donné, tu as été, surtout si on compare avec la Chine, là, qui est totalement extrême là-dedans, c'est eux analysent 100% de tous leurs citoyens, aucune vie privée là-bas, c'est incroyable. Fait que, si quelqu'un dans la rue a déjà, son visage a déjà été identifié, puis même s'il ne l'a pas été dans la rue, je veux dire, ils sont obligés d'être identifiés eux autres là-bas. Fait que ce visage-là, ben, dans les caméras, ils vont savoir comment la personne marche. Fait que même si elle se met une cagoule, ils vont quand même savoir c'est qui, dépendant de la manière qu'elle bouge.
Parce qu'ils analysent que chacun a une démarche particulière.
Oui, exact. Fait que là, prends ce concept-là, puis applique-le au concept de sécurité, puis qu'est-ce que tu peux faire. Fait que là, évidemment, on n'a pas 100% des détails, mais beaucoup de ce qui existe dans ça provient aussi de tout ce qui est des casinos aux États-Unis. Pas tant pour la sécurité, mais eux vont détecter... la sécurité, mais aussi tout ce qui est ceux qui essayent de tricher, si on peut dire, compter les cartes. Fait que, ils peuvent avoir de l'analyse là, vraiment détaillée au niveau des visages, des comportements, de voir les personnes alentour, etc. Fait que tu peux appliquer ça dans les foules pour les festivals. Et t'as aussi, je ne sais pas si ça a sorti des nouvelles cette semaine, mais tout ce qui est les manifestations, ça peut aussi être utilisé pour ça.
Mm-hmm.
Fait que... ce qui est intéressant avec tout ça, c'est que tu peux faire de la corrélation avec tout ce qui est l'électronique aussi. Ça, je faisais le lien avec les manifestations pour ça, parce que toute l'électronique que vous avez sur vous, dans un moment de manifestation ou dans des lieux où il y a de la sécurité comme ça, ils vont aussi analyser qui est sur place basé sur les devices identifié au niveau cellulaire, Bluetooth et Wi-Fi.
Ce que tu as sur toi, en fait, va émettre des ondes qu'on va être capable de capter puis savoir que c'est probablement Pascal qui a ça dans ses poches. Donc, la personne qu'on est en train de regarder avec l'intelligence artificielle, ça doit être Pascal.
Exact. Mm. Fait qu'ils peuvent soit identifier la personne, s'ils ne savent pas c'est qui la personne, mais ils peuvent quand même identifier que cette personne-là est une personne numéro whatever, versus un autre. Fait que ils sont capables de traquer quand même s'ils ne savent pas c'est qui en arrière.
Puis peut-être aller jouer justement dans ton cellulaire par la suite en ayant ces numéros-là. Là.
Ben, ils peuvent te retracer. Fait que, si on recule, ça doit être 2012 ou autre, il y a eu beaucoup de manifestations avec les... j'ai oublié les noms exacts. Là, ce qu'il y avait eu à Baie-Saint-Paul aussi. Là,
les G7, oui, c'est ça.
Les G7, oui. C'est G20, G7, etc. La police intercepte toutes les communications cellulaires et sont capables de savoir qui exactement est dans la manifestation. Mmh.
Des gens qui écrivent, on est comme dans 1984.
Ouais,
on est presque rendu là. Je voyais que la technologie qui sera utilisée aussi au Festival de Cannes, en test avant les Jeux olympiques de Paris, permet de repérer des événements, des comportements aussi qui sont jugés suspects. Ça va un peu avec ce que tu disais dans la démarche, dans la façon dont la personne agit. Vraiment, là, aller chercher des comportements jugés suspects ou à risque, aider à détecter des colis abandonnés, des présences d'armes, des personnes au sol ou encore des mouvements de foule particuliers. Et tout ça est détaillé et envoyé presque en temps réel au service d'urgence. On est rendu ailleurs, Patrick.
C'est quelque chose. Tu sais, la majorité du monde qui nous écoute vont dire « c'est pas très grave, c'est pour la sécurité », mais le problème, c'est... ces technologies-là sont tellement invasives que oui, pour le concept de sécurité dans un festival, c'est pas si grave. Mais le problème, c'est que ça sera pas utilisé juste pour ça.
Mm-hmm.
Ça va être partout. T'sais, si on regarde l'Europe, là, puis surtout à Londres, les caméras, il y en a au coin de la rue, la Chine, on prend déjà l'exemple, il n'y a plus de vie privée. T'sais, tout ça, ça s'en vient ici. Là, je pense que c'est à matin, la publicité, pas la publicité, la nouvelle que Éric Kerr abandonne pour l'instant le projet d'identité numérique.
Oui.
L'identité numérique, c'est une très bonne idée. Tu sais, tout le monde a une carte à puce sécurisée, blablabla. Ils veulent faire de la reconnaissance faciale. Un désastre. Tu sais, c'est pas une technologie sécuritaire plus qu'une carte à puce. Sans parler que tu vas-tu forcer un enfant de 2 ans à avoir un cellulaire pour avoir l'application? Non, ça n'a pas de sens. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais le point, c'est qu'ils pensent à faire de la reconnaissance faciale au Québec pour une identité numérique.
Est-ce qu'on est rendu, finalement, à baisser les bras sur la vie privée? Ça va tellement être rendu un concept flou que ça va plus servir à rien, cette vie privée-là, que nos actions, on n'aura même pas à penser si on est scruté ou pas. On va continuer de vivre, on continue de faire des expériences, on va continuer de ne pas trop se soucier de ça, parce que ça sera rendu trop flou dans quelques années, Patrick?
Bien, il ne faut pas baisser les bras. Je pense que c'est le moment de faire l'inverse, là, de se réveiller et de chialer contre tout ça. Le problème, tu sais, c'est qu'il y a jamais de mauvaise intention avec tout ça. Tu sais, il y a pas de mauvaise intention avec le Festival de Cannes pour mettre cette sécurité-là.
Ben non, puis en plus, quand on entend parler qu'à moins de 2 mois des Jeux olympiques de Paris, il y a un défi sécuritaire important, il y a un manque d'agents municipaux, de policiers municipaux, donc cette technologie-là va énormément aider, là, selon les dires.
Exact. Mais le problème, c'est qui gère les données, qui a accès aux données, qu'est-ce qu'ils font avec les données après? Puis qu'est-ce qu'ils vont faire de plus après ça? T'sais, nous, quand l'application VaxCode est sortie là, durant la pandémie à fin 2020 ou 2021, 6 mois avant, on disait dans notre podcast, dans les médias, on a dit « faites attention, ils vont utiliser ça pour vous restreindre l'accès dans les restos ». On dit « ben non, c'est pas vrai, ils feront pas ça, ils disent ». On a même la quote existe encore, là, Éric Kerr qui dit « on n'utilisera pas ça pour vous restreindre dans les accès ». 6 mois plus tard, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont restreint les accès. Fait que ce genre de technologie-là, l'intention est bonne aujourd'hui, mais elle va aller toujours de pire en pire. C'est plate, mais c'est ça. Puis les gouvernements puis les grandes entreprises, bien, les grandes entreprises sont là pour faire de l'argent, puis le gouvernement est là pour essayer de faire de leur mieux. L'intention est bonne, mais ils sont pas équipés pour gérer ça correctement. Fait que, tu sais, qui va gérer les données de Cannes après? Ils vont toutes les supprimer? C'est-tu 5 personnes qui ont accès à ça ou c'est 20 000 employés? T'sais? Le bordel va toujours retomber à ça.
Puis, même si on avait les meilleures prétentions en tant que gouvernement, la meilleure sécurité pour stocker ces données-là, etc., est-ce que ça pourrait être peut-être un buffet à volonté pour d'autres pays qui, peut-être, souhaitent infiltrer des banques de données malgré tout en se disant « Allez-y, utilisez toutes ces technologies-là, puis nous, on va être capable d'intercepter ce que vous avez logé dans des... »
Bien, sûr. Puis, tu sais, dans les nouvelles, dans les derniers jours, ça a été découvert que la Chine était dans les systèmes, je pense pas que c'est les services secrets, mais quelque chose de très haut et similaire aux États-Unis. Tu sais, notre petite identité québécoise, c'est sûr qu'ils sont dans nos systèmes, là. Je veux dire, je vois pas pourquoi. Aujourd'hui ou hier, Hydro-Québec dit qu'ils vont investir plus de 50% plus en sécurité chez Hydro-Québec. Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il eu une attaque puis personne ne l'a dit ou on n'est pas sûr? C'est sûr qu'il y a quelque chose là. Je pense qu'on peut résumer ça. Ça fait peur, on n'est pas équipé pour.
OK, bien là, peut-être qu'on a manqué le train, mais il va falloir vivre avec. Mais au moins, on a reçu. Patrick, Mathieu, merci beaucoup d'avoir terminé l'émission L'heure CV avec nous. C'est toujours un plaisir de t'avoir sur les ondes de Boulevard 121. Passe une belle fin de journée.
Yes, merci beaucoup.
Salut, belle fin de journée pour Patrick, quand même 10h55. On va lui souhaiter une belle journée. C'est un peu ce que je vous souhaite à vous aussi. C'est la fin de l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là. Il y a quelqu'un qui nous signale qu'il y aurait un assez gros avion qui tourne en rond dans le ciel au-dessus de Saint-Lazare-Sainte-Claire. Il vole quand même bas comparé à ce qu'on voit d'habitude. Merci Jennifer pour les informations. Je ne peux pas vous indiquer ce qui se passe, mais si vous en avez de l'information, 88-971-1021. Le temps de vous dire que la saison du baseball au Stade Canac s'est commencée et pour l'occasion, bien, on vous invite. Le fameux match Boulevard est de retour au Capitale de Québec. Et notez à l'agenda que ce sera le 24 mai prochain. Vous allez pouvoir venir au Capitale de Québec. Vous allez voir notre équipe affronter les Valley Cats de Tree City. C'est une soirée 100% Boulevard 102.1. Donc, on va être là. Venez vous faire du gros fun avec nous. C'est un vendredi en plus, donc on a bien hâte de vous rencontrer. Puis c'est toujours une magnifique journée. Pas grand monde qui manque ça dans l'équipe, puis pas grand auditeur qui décide de ne pas revenir l'année d'après. Je vous souhaite une belle Ouais. Une belle journée ensoleillée. Parce que c'est jusqu'à 19 degrés, je vous rappelle, aujourd'hui. Faut sortir. Mais amenez-nous avec vous dans votre poche. Marceau midi, ça commence dans un instant. Yannick est en feu. Tom Gauthier sera là aussi. On vous accompagne, comme à l'habitude, sur l'heure du lunch.